Avoir raison avec John Rawls. La France est en retard sur Rawls. Son œuvre majeure, Théorie de la justice, est parue en anglais en 1971 et ce livre a eu aussitôt un énorme retentissement dans le monde. En 1980, on a pu consacrer un livre entier à recenser la bibliographie des ouvrages et des articles savants qui lui avaient été consacrés au cours de la seule décennie 70. Un de ses critiques, Robert Nozick, a écrit « C'est une fontaine d'idées lumineuses intégrées en une belle totalité. Les philosophes politiques doivent dorénavant travailler dans le cadre de la théorie rawlsienne ou alors expliquer pourquoi ils ne le font pas. » Il s'agit, écrit Alain Boyer, du livre de philosophie le plus diffusé, le plus cité et le plus commenté du XXe siècle, toutes catégories confondues et en quelques langues que ce soit. Et voilà, nous qui croyons que c'était le cas de Sartre, de Heidegger ou de Foucault. Et voilà, pour cause de provincialisme, il nous a fallu attendre 16 ans pour disposer d'une traduction de cette œuvre magistrale et majestueuse. On la doit à Catherine Audard, sa traductrice attitrée, qui sera avec nous mercredi et vendredi. Mais pourquoi ? Pourquoi ce retard ? Eh bien peut-être parce que, en 1971, lorsqu'est paru A Theory of Justice, le livre de Rawls a été étiqueté social-démocrate. Il ne s'inscrivait pas dans la logique de lutte des classes marxistes qui prévalait alors en France. Il prétendait au contraire, Rawls, nous proposer un consensus par recoupement raisonnable, permettant de surmonter les antagonismes par le recours à la raison. Il conjuguait, de manière originale et grâce à un système cohérent, les vertus du libéralisme politique et un très audacieux objectif d'égalité sociale. Alors nous allons voir tout au long des émissions de cette semaine en quoi la justice comme équité tient ou non cette promesse. Les démocraties sont fragiles, disait Rawls, les démocraties sont fragiles parce qu'elles reposent sur un consensus sans cesse menacé. Elles admettent en effet la pluralité des systèmes de valeurs. Les totalitarismes hier, mais les régimes illibéraux d'aujourd'hui promettent de restaurer cette cohésion et cette stabilité perdue en combattant les options minoritaires et en tentant de réimposer une conception du bien. C'est pourquoi la pensée de John Rawls paraît redevenir d'actualité et les livres qui lui sont consacrés redeviennent nombreux et intéressants.
The basic, or the, maybe I'd say the most fundamental in justice's fairness is the idea of society itself as a system of social cooperation between citizens regarded as free and equal persons. Now, I'm not saying you accept that idea, not saying that you believe it's true, but that you can understand that. It's accessible to you. Now, perhaps it isn't, but anyway, I believe it is.
France Culture, Avoir raison avec John Rawls, Brice Couturier.
Alors Alain Boyer, vous avez reconnu la voix de John Rawls parce que vous l'avez fréquenté, vous l'avez connu de près et vous venez justement de publier un de ces livres dont je disais que, qui montrait que John Rawls restait d'actualité. C'est un livre qui est paru en 2018 aux presses universitaires de France et qui s'appelle « Apologie de John Rawls ». Mais puisque vous l'avez connu, Alain Boyer, un mot sur le personnage. Vous l'avez fréquenté, c'était un grand professeur, c'était un WASP. Hein. Il était dans d'une bonne famille et c'était le contraire de ce qu'on appelle aux États-Unis un intellectuel public. C'était pas le genre à monter sur les tonneaux pour haranguer les foules. Quel genre de personnage était-ce ?
Oui, bonjour et merci. Oui, j'ai rencontré deux fois John Rawls, je ne l'ai pas vraiment fréquenté, mais j'ai pu m'en faire une idée. C'était un homme très... classique en fait, c'est l'Amérique du Nord-Est, c'est pas du tout la Californie, et il était même différent de pourtant collègue Robert Nozick, qui dans son livre fait appel à des exemples de type western, des choses comme ça. Non, John Rawls c'était un pur académique, à l'anglaise en fait, d'une certaine manière, un côté européen. Je lui ai d'ailleurs dit un jour au Sénat en 87, en lui montrant notre devise, Did you know that, enfin, savez-vous que, en écrivant dans le chapitre, la section 17, que liberté, égalité, fraternité correspondait à vos principes, que c'était la devise de la France? Mais j'ai juste répondu, oh, sure. Mais il était très peu bavard, très timide, très modeste. Je lui dis, Professor Rose, may I ask you a question? Il me dit, oh, don't call me Professor, call me Jack. Je lui ai répondu « Yes, Professor Rose ». J'étais très intimidé, et lui aussi, ce qui est quand même absolument paradoxal. Et donc, c'était un homme qui n'a jamais voulu, d'ailleurs, vulgariser sa pensée.
La théorie et elle est difficile.
Un ouvrage très difficile à commenter, qui est très long. C'est un ouvrage de plus de 500 pages en anglais. Et il n'en a pas fait de résumé.
Et vous, vous en avez fait un autre fois.
Oui, j'en ai fait un il y a 30 ans.
Bill Clinton a dit de Rawls qu'il avait rendu confiance en la démocratie à toute une génération, la sienne. Qu'est-ce qui a rendu cet auteur d'un ouvrage aussi compliqué, aussi difficile à lire, aussi immensément populaire? Dans le monde anglo-saxon, en tout cas.
Là, il faut peut-être expliquer que, autant en 71, j'en faisais partie, j'étais jeune comme vous, c'est les noms de Marx ou Marcuse qui nous venaient à l'esprit quand on pensait politique. Et quand on pensait États-Unis, pour moi, c'était plutôt Jim Morrison et Janis Joplin, etc., que John Rawls. Eh bien, à cette époque, si vous voulez, la pensée marxiste ou néo-marxiste ou nietzschéo-gauchiste, disons, dominait les pays comme la France ou l'Italie. Et donc, en revanche, le monde anglo-saxon, que ce soit la Grande-Bretagne ou les États-Unis, était dominé depuis longtemps par l'utilitarisme. Donc, je pense, et d'autre part, par une pensée qui était absolument rejetée en France, qui est que les Américains appellent laisser-faire, qu'ils emploient beaucoup plus que nous, qui est un terme d'origine physiocratique, qui est le libéralisme radical. Donc, il y avait ces deux pensées que je pourrais peut-être résumer pour montrer que Rawls a proposé une troisième voie. Qui est plus européenne.
Ah, on vient. Alors, vous disiez le welfare state, la pensée utilitariste. En réalité, cette pensée utilitariste aux États-Unis, comme en Grande-Bretagne du reste, elle était dominante à cette époque parce que c'est celle qui fonde, qui appuie philosophiquement le welfareisme. Le welfareisme qui avait déjà lieu aux États-Unis avec Roosevelt et le New Deal, mais il y avait surtout le rapport Beveridge. On oublie toujours qu'en réalité, l'État-providence, c'est les Anglais qui l'ont inventé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec le rapport Beveridge. Et il s'appuyait, en effet, sur la philosophie utilitariste. Le truc fondamental que fait Rawls, c'est qu'il rompt avec l'utilitarisme et il essaye de fonder, enfin il fonde sa philosophie au contraire sur le contractualisme. Il retourne au contrat social tel que John Locke ou Rousseau avaient pratiqué
et
chez
Kant.
Nous. Et Kant. Alors pourquoi il fait cette démarche de rompre avec l'utilitarisme? Après tout, le bien-être le plus grand possible pour le plus grand nombre possible, qui est le fondement de la pensée utilitariste, c'est commode pour penser l'État-providence. Comment on peut penser la redistribution sociale avec la théorie de Rawls, avec la théorie en revenant avec l'idée d'un contrat social initial?
Très très bonne question. L'utilitarisme, d'une part, fondé par Bentham, donc fin du XVIIIe siècle, reposait sur cette formule du théologien britannique, du plus grand bonheur pour le plus grand nombre, mais elle est logiquement fautive. On ne peut pas faire le plus grand bonheur du plus grand nombre.
On peut faire la moyenne alors?
Non, on peut faire le plus grand bonheur d'un nombre donné de personnes. Je dis souvent aux étudiants que c'est comme si on demandait à un coureur cycliste de faire un course contre la montre en battant le record du monde de vitesse. On ne peut pas faire les deux en même temps. Soit on va dans le temps le minimum, soit on fait le parcours maximum. Et donc, en fait, il faut faire le plus grand bonheur du nombre des gens d'une société donnée. Et alors, l'utilitarisme a ceci de particulier, qui est les conséquentialistes. Les intentions ne comptent pas, contrairement chez Kant, et donc seul compte les conséquences. Deuxièmement, il est welfareiste, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que ne compte que les conséquences qui touchent le bien-être des individus, ce qui a un effet intéressant, d'ailleurs que Rawls reconnaissait puisqu'il était végétarien, c'est que l'utilitarisme permet de compter les animaux comme des objets possibles de notre concernement moral, puisqu'ils souffrent, ce que le kantisme ou le cartésianisme ne faisait pas. Troisièmement, l'utilitarisme, c'est là que tout se gâte, si j'ose dire. L'utilitarisme considère que un acte moral, c'est celui qui maximise la somme des bonheurs moins les malheurs. Totaux, de la totalité. Et donc, ça veut dire, si vous voulez, que si vous avez une société qui passe d'un état où tout le monde a à peu près le même niveau à un autre état où suffisamment de gens sont mieux que le petit nombre de ceux qui deviennent malheureux, ceux qui deviennent malheureux, leur malheur est plus que compensé par le plus grand bonheur
donc c'est bien.
Des autres.
Donc c'est formidable.
L'utilitarisme dit oui, parce que la somme est plus grande.
Donc Rawls dit que,
et Rawls exemple... dit que ça consiste à appliquer à une totalité un raisonnement qui ne vaut que pour l'individu. Donc, l'une des phrases les plus célèbres de la théorie de la justice, je l'ai dit en anglais, « Utilitarianism does not take seriously the distinction between persons ». L'utilitarisme ne prend pas au sérieux la distinction des personnes.
Il prend que des masses.
Il prend la masse, si vous voulez, de la totalité, comme si c'était un gros individu, de telle manière que il est rationnel si je suis en montagne et que je suis seul, c'est arrivé à un jeune Américain admirable, que j'ai le bras coincé par un rocher, il est rationnel de me couper le bras pour me sauver. On faisait ça pendant les guerres. Mais l'utilitariste dit, ben, il est rationnel, si vous voulez, de sacrifier un certain nombre d'individus pour le plus grand bonheur du reste. Et Rawls considère, et j'ai fait remarquer que c'était un peu la même critique qu'Aristote faisait à son maître Platon, que ceci consiste à sacrifier des individus.
Alors jusqu'à l'esclavage. Rawls dit, disons, avec l'utilitarisme, on peut justifier l'esclavage si c'est pour le bien-être de la société globale.
Voilà. Rien dans les principes, si vous voulez. C'est ma thèse dans tout mon livre, mais c'est fondamentalement la question de la personne qui est en jeu. Il n'y a rien dans l'utilitarisme peut dire, oh, mais si, les droits, c'est bien. Ça maximise le bonheur. Mais ça n'est que des instruments. Ce ne sont que des instruments pour l'utilitariste. Si jamais on lui montre que, si vous voulez, vous avez un viol. C'est un exemple que je prends souvent, qui est affreux. L'utilitariste va condamner le viol. Pourquoi ? Parce que la souffrance de la personne violée
est supérieure au bien-être,
supérieure à la jouissance du sadique. Rawls, en tant que Kantien, considère que ce raisonnement-là
est immoral.
Voilà.
Ok.
Rawls, on doit exclure a priori, les conceptions du monde qui ne sont pas justes.
De l'utilitarisme au contrat social. On reviendra sur la théorie du contrat social de Rawls, parce qu'elle est quand même assez différente de celle de Rousseau, de John Locke. Mais revenons un petit peu aux États-Unis dans les années 60, parce que Rawls, il publie en 71 sa théorie de la justice, mais il l'élabore pendant ses cours à Harvard pendant plus de 10 ans. Or, qu'est-ce qui se passe dans les années 60 aux États-Unis ? Eh ben, c'est l'époque du mouvement de Martin Luther King pour les droits civiques. C'est l'époque des grandes manifestations pour la guerre du Vietnam. Est-ce qu'on peut penser que la théorie de la justice contribue d'une certaine manière à synthétiser, à globaliser ou à donner un soubassement théorique intellectuel à ces différents mouvements sociaux ou pas ? Ou est-ce que c'est une abstraction pure ?
Non, elle contribue, mais elle n'est pas influencée par ces événements. La preuve, c'est que, si vous voulez, les deux principes, qui sont trois, et organisés de manière lexicale, il faudrait que j'explique ça, les trois grands principes, dont le dernier est le plus étonnant, le plus intéressant, qui s'appelle le principe de différence, ces trois principes ont été écrits, rédigés dans un article de 58. 58, c'est avant les 60s, par définition. C'est avant Kennedy, avant Johnson, avant la guerre du Vietnam, avant Martin Luther King. Donc la pensée était là, comme pensée anti-utilitariste, destinée à fournir une base morale plus adéquate que l'utilitarisme et que le laisser-faire capitaliste pur pour les démocraties constitutionnelles modernes. Mais évidemment, le mouvement, en particulier le mouvement pour les droits civiques, lequel Rawls a discrètement
soutenu,
mais fermement soutenu, et contre la guerre du Vietnam aussi, allait dans son sens. C'est-à-dire qu'il était démocrate, sauf que Johnson était à la fois le président des droits civiques,
la Big Society,
et de la guerre du Vietnam. Donc, il y avait une sorte de tragédie interne chez les démocrates à l'époque.
Je vois que les trois principes, vous avez très envie de nous les dire, mais vous n'en faites pas, on va les discuter pendant toute la semaine, parce que c'est absolument fondamental, c'est la quintessence du système rawlsien. Mais revenons de manière plus générale à John Rawls. Sa philosophie apparaît comme anticlivante, pour parler utiliser d'un mot d'aujourd'hui. Elle cherche à dépasser les conflits sur la nature du bien, puisqu'on est dans des sociétés modernes et démocratiques, les conceptions du bien varient, elles sont très différentes selon les individus. Il ne peut pas y avoir de consensus sur la vie bonne aujourd'hui, mais John Rawls, d'une certaine manière, monte en abstraction. Il monte en généralité et il nous dit on peut peut-être pas avoir une définition commune du bien, mais on peut avoir une définition commune du juste.
Absolument.
Et c'est ça le saut intellectuel que fait Rawls. Expliquez-nous en quoi il y a une différence entre le bon et le juste et pourquoi Rawls choisit le juste comme priorité contre le bien.
Très bonne question, parce que le good, ce sont les philosophes moraux britanniques qui ont cette conception. Sidgwick, le grand utilitariste, puis Ross, le grand aristotélicien. Ils définissent le good comme étant l'ensemble, si vous voulez, c'est comme ça que Rawls le définit, le good, le bien, c'est l'ensemble des fins qu'un individu se donne. Sa conception du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur pour vous? Qu'est-ce que pour moi? Il n'est pas la même chose pour un athée et pour un chrétien, un musulman, évidemment. Mais même un SS a une conception du good, comprenez? Il faut tuer tous les juifs. Donc, encore une fois, l'utilitarisme va compter cette conception, en disant qu'en fin de compte, elle est mauvaise, parce que ça produit plus de malheur que de bonheur. Chez Rawls, c'est le juste qui va servir de filtre aux conceptions du good, comprenez? Conception, que je dirais, les conceptions de la vie, les conceptions de l'existence. Et toutes ne sont pas acceptables. Donc, une conception qui dit que les femmes doivent être soumises à leur mari, une conception qui dit que l'esclavage est autorisé, une conception qui dit que la torture, c'est normal si ça fait jouir les tortionnaires, eh bien, toutes ces conceptions sont filtrées, en quelque sorte, par les principes de justice, et ils n'ont pas le droit à la parole. Ensuite, toutes les conceptions différentes, parce que là, vous avez fait allusion subtilement à la deuxième partie de l'œuvre de Rawls, qu'il n'avait pas prévu dans la théorie de la justice, qui est libéralisme politique, hein, avec le consensus par recoupement entre les conceptions. Alors, c'est un adjectif très difficile à traduire en français, bien qu'il soit d'origine française, comme d'habitude en anglais, comprehensive, qui comprend tout. Mais compréhensif,
englobant.
En français, ça veut pas dire ça. Mm. Englobant, c'est la meilleure, moins mauvaise des traductions. Mm. Second best. Mais ça comprend tout. Donc, par exemple, vous avez une religion, c'est un système qui englobe tout, métaphysique. Le matérialisme athée, je dirais de Michel Onfray ou de mon ami André Comte-Sponville, ou importe le mien, c'est une conception du monde aussi. Et nos conceptions, par exemple, de la fin de vie, ne vont pas être la même que celle d'un croyant. Bien, le pari de Rawls, donc, dans ce deuxième ouvrage, c'est que les principes de justice qu'il avait énoncés, il les modifie très peu, vont servir de consensus aux conceptions raisonnables du good. J'ai du mal à traduire par bien, vous comprenez pourquoi? Parce que chez nous, bien s'oppose au mal. Or, en anglais, la distinction bien-mal, c'est right, wrong. L'une des phrases préférées de John Rawls, pour vous la citer, ça rappellera ce que je viens de dire pour l'esclavage, elle est du plus célèbre président des États-Unis d'Amérique, le républicain Abraham Lincoln. Elle est très subtile. If slavery is not wrong, nothing is wrong.
Si l'esclavage n'est pas mal,
n'est pas mauvais.
N'est pas mauvais, alors rien n'est mauvais.
Voilà, moralement mauvais, vous comprenez? Donc c'est wrong qui porte le right et le wrong qui porte la distinction bien mal.
Alors vous dites que Rawls, dans votre livre, hein, que je rappelle, Apologie de John Rawls, Alain Boyer, vous dites que Rawls est un libéral républicain. Or, les libéraux sont plutôt du côté de ce qu'on appelle chez Benjamin Constant la liberté des modernes. En gros, pouvoir mener ses affaires privées sans être contraint, sans être empêché. Et les républicains, du côté de la liberté des anciens. La participation égale à la vie politique, exercer ses droits de citoyen, etc. Comment Rawls concilie les deux polarités, libéralisme et républicanisme?
Encore une remarquable question qui demanderait...
Ah, merci, professeur.
Quatre heures de...
Vous avez 3 minutes.
4 heures de réponse. D'une part, Benjamin Constant lui-même, j'ai souvent étudié le texte en Sorbonne avec les étudiants, dans sa conférence de 1819 à l'Athénée, fait une exception pour Athènes, justement, en disant, dans les cités anciennes, Sparte et Rome, c'est-à-dire les idéaux de son adversaire suisse lui aussi, Rousseau, c'est Rousseau qui a attaqué. La liberté des anciens, c'est Rousseau. Chez Constant.
Sens civique.
Les Jacobins, tout ça. Mmh. Et Rousseau mettait Athènes nettement au-dessous de Sparte et Rome.
Waouh.
Ah oui, Rousseau dit aux gens de Genève, qui l'ont déçu en brûlant les milles, vous n'êtes pas des Spartiates, vous n'êtes pas des Romains, vous n'êtes même pas des Athéniens. Et donc, l'idéal d'Athènes, c'est l'idéal d'une cité ancienne où la liberté individuelle comptait, où la diversité et la liberté de parole existaient. Deuxièmement, si vous voulez, on peut être libéral et républicain, je pourrais l'arguer, sur John Locke, qui peut être considéré comme un républicain, hein, qui était un allié de Sidney, qui s'est fait décapiter par Charles II, parce que c'était un républicain. Donc, j'en ai souvent parlé avec mon ami Philippe Pettit, mais la chose est
compliquée. Le grand tenant du républicanisme, voilà, anglo-saxon.
La chose est plus compliquée. Hein. J'ai écrit un article qui m'a demandé, hein, gentiment, en anglais, là-dessus. Troisièmement, il n'y a pas de honte, si vous voulez, à introduire une nouvelle variante du libéralisme, un libéralisme républicain. Bon. Et il n'y a pas de contradiction. Parce que le président de la République est fondé, je lui ai fait remarquer que nos trois principes sont français, et c'est les trois siens, liberté, égalité, fraternité.
Alors, je peux vous interrompre là, justement.
Et laïcité.
Vous avez dit que Rawls faisait référence à nos trois principes, à notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, mais dans notre vie politique, nous avons l'habitude, nous, de doser plus de liberté, c'est la droite, plus d'égalité, c'est la gauche. Vous insistez beaucoup dans votre livre, Apologie de John Rawls, sur le fait que chez Rawls, ces trois éléments, liberté, égalité, fraternité, ne s'additionnent pas, mais qu'ils s'additionnent et qu'ils font système en quoi ?
Ils sont ordonnés lexicalement. Le premier principe, c'est un principe de liberté égale pour tous. Il est intouchable, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de toucher à ce premier principe au nom du deuxième ou du troisième. C'est ça l'ordre lexical, comme dans un dictionnaire.
Le plus grand système de liberté pour tous, compatible avec celui de tous les autres.
C'est ça, c'est une définition qui vient de Kant, dans la critique de la raison pure.
Donc, deuxième.
Le deuxième principe, c'est le principe de l'égalité réelle des chances. Parce que l'égalité formelle des chances, qui est, j'ai trouvé que c'était Napoléon qui avait inventé l'expression, qui est la carrière ouverte au talent, que les libertariens comme Nozick acceptent, ou Hayek, ça ne suffit pas. Rawls, sans avoir lu Bourdieu, mais ayant lu Marx, sait parfaitement que le lieu de l'enfance dans lequel on est né, la famille, etc., influe considérablement sur les anticipations que les parents ont sur notre futur, sur nos propres anticipations, et que ce milieu fait que les défavorisés resteront défavorisés. Donc il faut une égalité des chances qui ne soit pas simplement formelle. Donc il était favorable techniquement à des systèmes de bourse, des systèmes d'école publique,
santé
de taxation, qui étaient tout à fait proches de ce qui se passe en France, mais très loin de ce qui se passe aux États-Unis.
Troisième principe.
Et troisième principe, c'est le principe de différence, le plus célèbre, mais qui est troisième.
Soumis au deuxième,
au premier. Il est le deuxième du deuxième. Bon, c'est un peu compliqué. Ouais. C'est comme les trois mousquetaires qui étaient quatre, là,
les deux principes sont trois.
Donc le troisième principe de différence, c'est le plus original, bien que par modestie, Rawls dit « Tout ce que je dis dans ce livre est bien connu, je ne prétends aucune originalité. »
Non, là c'est très original.
C'est très face.
Énoncez-le.
Le principe de différence dit que les biens premiers, il faudrait les définir, doivent être distribués de telle manière que le plus mal loti dans chaque catégorie de biens premiers, soit le mieux loti possible. Donc ça veut dire, si vous voulez, si vous avez...
C'est un principe d'inégalité. Toute inégalité ne peut être justifiée que par le fait que ça améliore la situation des moins lotis, des moins bien lotis.
Si vous voulez, contre l'égalitarisme radical, qui vous dit qu'il est interdit de passer de... Je donne des chiffres pour aller vite. Vous auriez un monde où vous avez deux. Chacun a deux. Quoi que ce soit. Noix de coco, dollars, deux. Et vous avez un autre monde où vous passez à 3-5. Quelqu'un qui est un pur égalitariste, qui dit il n'y a que l'égalité, il refuse ce passage. Le principe de différence autorise et même rend obligatoire le passage.
Parce que celui qui avait 2-3.
Parce que celui qui avait 2-3, vous avez tout compris. Et les individus, dans la position originale en tout cas, sont supposés être non envieux. Donc ce n'est pas parce que l'égalité augmente que je deviens plus malheureux, c'est ça l'envie. La passion antisociale par essence. Non, on peut passer, ça s'appelle une progression parisienne forte, je fais un lapsus dans mon livre, bon, peu importe. Et les deux s'améliorent en fait. Mais évidemment, l'inégalité augmente. Mais si vous laissez les talents s'exprimer, il est pour le marché, Rawls. Ouais, socialiste de marché. Il est social-démocrate. Il est pour le marché. Il n'est même pas social-démocrate, c'est encore plus compliqué.
Il n'aime pas trop.
Mais oui, parce qu'il n'est pas pour le welfare state, en fait. Il est pour ce qu'il appelle le property owning democracy, qui est une expression du prix Nobel anglais Mead, prix Nobel de l'économie, qui serait une démocratie du capital. J'ai comparé ça à la participation du général de Gaulle, dont j'avais entendu parler pour la première fois le 24 mai 68 à la radio.
Et voilà, de Gaulle devenu Rawlsien, bien malgré lui, parce que sûrement il l'ignorait. Mais on a quelqu'un au téléphone que j'aimerais vous faire entendre, c'est Ophélie Desmond, qui a soutenu une thèse de doctorat sur Rawls et qui est maître de conférence à Paris-Sorbonne. Vous m'entendez, Ophélie Desmond?
Oui, je vous entends
bonjour.
Bien.
Alors, oui. Ophélie, si on suit bien Rawls, il faut obéir aux lois, puisque idéalement elles découlent de la Constitution et que celle-ci elle-même est tirée des principes de la théorie de la justice telle que notre ami Alain Boyer vient de les exprimer. Et pourtant, Rawls évoque le cas où la désobéissance civile est devenue légitime. C'est, écrit-il, lorsque le droit de vote est refusé à une certaine minorité ou celui d'accéder à une fonction publique ou le droit de propriété ou de se déplacer. Alors, vous avez consacré des travaux précisément à la façon dont John Rawls légitime la désobéissance civile. Que pouvez-vous nous en dire dans le contexte actuel ?
Oui, tout à fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un chapitre complet de théorie de la justice qui est consacré à la désobéissance civile et à l'objection de conscience. Ça, c'est pas sans faire écho, en fait, quand même au contexte d'écriture de théorie de la justice. Et donc, Rawls cherche à expliquer dans quelles conditions est-ce qu'il peut être légitime de désobéir aux lois. Sa conception est assez complexe. Néanmoins, ce qu'on peut dire, ce qui est intéressant, c'est que il estime que, effectivement, quand le premier principe de justice est violé, c'est-à-dire quand les libertés fondamentales sont violées dans une démocratie, cela peut légitimer une certaine forme de désobéissance, mais qui est très cadrée. Elle doit être non violente, politique, elle doit pouvoir se justifier de manière publique. Donc ça, c'est la désobéissance civile. Donc on peut évidemment penser à Martin Luther King ou à Rosa Parks.
Et il était dans le coup, John Rawls, quoique universitaire.
Oui, tout à fait.
Hein, il avait quand même, il a participé, même s'il haranguait pas les foules et qu'il signait pas de pétition, il était membre du mouvement de Martin Luther King, assez manifestement.
Alors, Rawls, vous l'avez dit, hein, ça n'est pas à proprement parler un intellectuel public. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir les moments ponctuels dans lesquels il a intervenu dans le débat public. Et notamment, il s'est expliqué, alors plutôt, enfin, il s'est exprimé plutôt sur la question de l'objection de conscience au moment de la guerre du Vietnam, en fait.
Et la légitime
Si je peux l'expliquer rapidement. Oui. Alors, plus ou moins, en fait, il expliquait qu'il existait un mécanisme à l'époque qui permettait, en fait, aux étudiants des grandes universités d'échapper à la conscription. Exactement. Alors, normalement, l'ensemble des hommes de moins de 26 ans devaient rejoindre l'armée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que pour Rawls, ce mécanisme d'exemption est injuste. Et il a essayé d'argumenter en faveur de cette idée au sein de son université. Donc il a vraiment pris position en déposant une motion que finalement le conseil de la faculté a rejetée pour affirmer que donc ce sursis est injuste. Son argument est le suivant, en fait. Il estime que si on estime que cette guerre, la guerre du Vietnam, est juste, ce que par ailleurs il récuse, il faudrait que les risques de la guerre retombent sur tous de manière équitable. Or, le sursis qui permet donc aux étudiants d'échapper à la conscription brise cette équité, puisque finalement, on le sait, hein, les étudiants des universités dans les années 70 font partie de cette classe la plus favorisée, font déjà partie des plus favorisés. Et Rawls estime, et on le sait maintenant statistiquement, que par conséquent, l'effort de guerre repose sur les plus défavorisés, en particulier sur les jeunes noirs, hein, dont on sait qu'ils ont été plus nombreux à se battre au Vietnam. Et en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que c'est une simple illustration de ces principes. On ne peut pas sacrifier les droits fondamentaux des uns, même au nom de la contribution culturelle, économique, qui pourrait être celle des étudiants, des futurs diplômés.
Bien, grâce à vous, Ophélie Desmond, on réalise que la théorie de la justice n'est pas simplement une théorie qui plane dans les airs, comme on lui reproche souvent, mais qu'elle reçoit des applications bien concrètes à l'époque, dans les années 70, et aujourd'hui également. Je vous remercie, Olivier Desmond, d'avoir été avec nous par téléphone. Je remercie Alain Boyer et je cite à nouveau le titre de son livre, tout à fait conseillable, Apologie de John Rawls. C'est paru au PUF il y a 2 ans. Merci d'avoir été avec nous. C'était donc Avoir raison avec John Rawls. Réalisation Nicole Aberger, assistante de production Corinne Amar, à la technique Morgane Danan. Merci à tous.